With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vous êtes sur le point d'écouter AI, un podcast intelligent et sans artifice, en forme de réflexion sur les promesses d'avenir radieux portées par les chants plus ou moins mélodieux des sirènes binaires de l'océan digital.
Bonjour, je suis Vincent Malone et si vous m'entendez, c'est que vous avez l'intelligence d'écouter AI, un podcast qui fait un malheur, mais sans faire mal, avec sur la mezzanine du poste général deux entités, à la fois intelligentes et humaines, oui c'est encore possible, Olivier Vigneault, président de BETC Digital.
Bonjour Vincent.
Félix Barès, notre journaliste président de lui-même.
Bonjour.
Ainsi qu'un invité dont votre vaste intelligence intuitive devrait vous permettre de deviner le nom au cours de ce programme.
Bonjour.
Le sujet du jour étant...
La sortie du nouveau livre de Jacques Séguéla, Le diable s'habille en GAFA.
Voici ce que j'ai trouvé. Jacques Séguéla, né le 23 février 1934 à Paris, est un publicitaire français, cofondateur de l'agence de communication RSCG en 1970.
Ok. Et le diable ?
Les êtres humains ont une religion, je ne crois qu'au silicium.
Merci beaucoup. Bien. Avant de lancer le débat, je propose une petite page de publicité.
J'aime ça.
Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer votre vie grâce au diable s'habille en GAFA, le nouveau best-seller de Jacques Séguéla.
C'est mon livre de chevet.
Oh, Jacques est incroyable. Même le titre est génial.
Oh, mon pauvre, tu ne sais pas lire.
Le diable s'habille en GAFA, c'est enfin l'analyse que vous espériez sur l'évolution du monde numérique.
Maintenant, je me rends compte que je vivais, en enfer.
Dans Le diable s'habille en GAFA, Jacques Séguéla invite l'intelligence artificielle à tenir compte de nos émotions bien réelles.
Avant, je croyais que j'allais devenir une machine.
Le diable s'habille en GAFA, c'est 100 pages de pur bon sens au service de l'humanité. Alors, qu'attendez-vous ?
Le diable s'habille en GAFA, le livre indispensable de Jacques Séguéla, est disponible chez les humains au prix de 17€ et en un clic sur Amazon.
Voulez-vous en savoir plus ?
Alors, Olivier, est-ce que Google, Apple, Facebook et Amazon, c'est le diable ?
C'est une vaste question, il y a du pour et du contre, on a interrogé les gens pour savoir ce qu'ils en pensaient. On a mené une grande étude qui s'appelle iLife avec Havas.
iLife est une étude menée par le groupe Havas et BETC Digital auprès de 12 169 adultes, dans 32 pays.
Et que raconte cette étude, Olivier ?
Eh ben, elle nous renseigne sur l'état dans lequel sont les gens par rapport à l'intelligence artificielle et par rapport au GAFA. Et on apprend des choses comme le fait, par exemple, que pour 60% des gens, l'intelligence artificielle est une bonne chose pour la société. On apprend aussi que les Français, notamment, sont prêts à ce que l'intelligence artificielle soit utilisée pour la conduite à 69%, pour les tâches administratives, pareil, plus de 60%, pour la gestion de la maison. Donc, il y a pas mal de pour, quand même, dans ce qu'ils imaginent être le futur avec les GAFA et les services qu'ils peuvent rendre.
Mais il y a également du contre.
Oui, Vincent, il y a du contre. Les gens sont compliqués dans leur tête. Ils sont tous évidemment un peu paradoxaux. Et ils nous disent aussi que, notamment dès qu'il s'agit de se substituer à leur libre arbitre, et c'est particulièrement vrai pour les Français, ils sont pas tout à fait prêts. Par exemple, il y a à peine 30% des Français qui souhaiteraient que leur frigo commande automatiquement les produits qui manquent. Donc ils se disent quand même, moi je veux garder la main sur ce que je fais, je veux pas que l'algorithme décide de tout. Et donc c'est tout le paradoxe entre un désir d'être accompagné et évidemment épaulé par l'intelligence artificielle, notamment Google et Amazon, et en même temps, quelques questions qui subsistent.
D'accord. Et peut-on avoir une réaction de notre invité mystère ?
Mais qui est-il ?
Je ne sais pas.
C'est à la fois le diable et le bon Dieu. C'est le bon Dieu lorsque l'intelligence artificielle et la masse des données accumulées font faire des bons incroyables à la médecine, à la biologie, à l'économie, à tout ce qui fait le progrès. Par exemple, lorsque les chercheurs américains, après l'étude de 100 000 cas de mélanome, ont réussi à mettre au point un algorithme qui, sur une simple photo d'un petit bouton qu'on a sur la peau, peut vous déclarer malade ou pas malade, c'est une avancée exceptionnelle. C'est finalement à la dermatologie ce que l'IRM a été à la radiographie. C'est un bond spectaculaire en avant.
Et d'ailleurs, les gens sont conscients parce que il y a 70% des gens qui disent que c'est dans la santé qu'ils attendent le plus.
Et c'est sûr. Or, la santé, c'est le grand business de demain. Donc, économiquement, quand on parle santé, on parle pas tellement économie du monde, économie de la France. Car nous avons le premier laboratoire mondial chez nous, ici en France, hein, Sanofi, qui en plus est un client d'Avas et de BETC. Page de pub gratuite. Il y a une start-up en France extraordinaire qui, elle, s'est intéressée à la rétinopathie de l'œil, le diabète de l'œil, qui est terrible parce que votre œil commence à être attaqué et vous partez vers la cécité. Rien de pire que de devenir aveugle. Eh bien, là aussi, après le cas de plusieurs centaines de milliers de photographies de l'œil, ils ont réussi à déceler sur une simple photo avec 2 minutes d'exposition, si vous êtes en train d'avoir cette maladie ou pas. Alors là, bravo. Oui, c'est une intelligence artificielle. Cette IA-là, je l'aime. Et puis, il y a l'autre. Il y a celle du diable. Et celle-là, je veux lui claquer la gueule. Les chercheurs de Stanford ont mis là aussi plusieurs années, en accumulant des photos, à réussir à trouver un algorithme où sur une simple photo, on peut savoir si vous êtes homosexuel ou pas. Moi, je ne veux pas de ce monde-là. Je suis pas contre le progrès. Qui peut nier le progrès? Mais je veux que le progrès soit régulé. Je veux qu'il y ait une éthique forte de l'intelligence artificielle. Si elle est intelligente, elle apprendra l'éthique. Et là, elle n'est pas intelligente. Elle est l'intelligence du passé. Elle est ce que l'intelligence humaine en fait. Il faut arrêter dans la béatitude de l'intelligence artificielle. Évidemment qu'elle est extraordinaire, mais c'est pas elle qui va mener le monde. On va pas lui donner les clés de la maison. Ils ont déjà pillé notre intimité. Ils vont pas en plus piller notre esprit, piller nos neurones. Ça, ce monde-là, je n'en veux pas.
Le livre commence par une citation de Bouddha qui dit « Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement ». Donc on sent bien que vous n'êtes pas opposé au changement, vous êtes plutôt un optimiste du coup de dire « voilà, allons vers l'avant, voyons ce qui se fait ». Mais pour revenir à ce que vous disiez juste avant sur le fait qu'en France on a des vraies forces, moi à travers ce livre j'ai vraiment senti qu'en fait la vraie question c'était que vous souhaitiez que la France prennent en main ce formidable bond en avant de l'intelligence artificielle.
Bon, moi je suis un idéaliste, hein. Je sais bien que l'Amérique, la Chine, c'est quand même autre chose et qu'ils ont plus de moyens. J'ai vu que Emmanuel Macron a fait un gros effort, il a donné 1 milliard à l'intelligence artificielle d'ici 2022. C'est 15 fois moins que la Chine. Vous me direz que la Chine c'est plus grand, mais c'est 5 fois moins que les Jeux Olympiques. Merde, c'est plus important les Jeux Olympiques que l'avenir du monde. Bon, alors je dis pas qu'il faut réduire les Jeux Olympiques, je fous le bonheur que nous ayons les Jeux Olympiques. D'ailleurs, deuxième page de pub, c'est nous qui avons été les publicitaires du gain des Jeux Olympiques. Bon, eh bien, c'est capital que nous mettions de l'ordre avant qu'il soit trop tard. Parce que quel est le pays le plus peuplé du monde? C'est pas l'Inde, c'est pas la Chine, c'est Facebook. 2 milliards 200 millions d'habitants. Aujourd'hui, le PIB des GAFA, c'est le PIB de la France. Dans 10 ans, dans 20 ans, c'est le PIB de l'Europe. Dans 20 ans, dans 30 ans, c'est le PIB du monde. C'est-à-dire que l'on a 4 garçons dans le vent qui possèdent plus que n'importe quel autre État réuni, plus même que l'ensemble des États réunis. 1 000 milliards de dollars chez Apple, dans les caisses. 1 000 milliards de dollars chez Amazon, dans les caisses. Bon. Donc tout ce qui pourrait créer la concurrence, tout ce qui pourrait les faire aller ailleurs, tout ce qui pourrait les gêner, c'est acheté au double, au dixième, au multiple du prix, dans la seconde. Donc c'est le contraire de la démocratie, c'est le contraire de l'économie libérale, c'est le contraire de la compétition, c'est le contraire de la concurrence, et ça peut nous mener très loin. Ça, ce n'est que la première chose. La deuxième chose, qui est pire que toute, c'est qu'ils sont allés piller de ce que nous avons de plus intime, nos propres données, au fond de notre âme, au fond de notre être. Aujourd'hui, grâce au croisement des algorithmes, ils arrivent à en savoir plus sur ce que nous sommes réellement et que nous ne savons pas encore. Parce que nous, vous savez qu'il y a 80% du cerveau qui nous échappe. Et donc, on a plein de réactions intérieures qu'on ne connaît pas. Eux, ils arrivent à les avoir. Ils les malaxent, ils les mercantilisent. Je ne sais pas si on dit mercantiliser. En tout cas, ils les vendent, ces salauds, par en clair. Bon. Et sans aucun copyright. sans que le donateur ne soit ni informé, ni ait donné son autorisation, ni ne soit rémunéré. Il n'y a pas de copyright des données. Mais le pire, il y a 7 ans, une poupée Barbie est arrivée sur le marché avec un capteur. Et depuis 7 ans, elle capte les premiers pas, les premiers mots de nos enfants quand ils descendent du berceau. Elle les met dans les clouds pour les utiliser demain, pour les manipuler et pour leur vendre les produits qu'elles vendront. Je ne veux pas de ce monde-là.
Ah, nous avons un message de Monsieur Parano.
Oui, bah déjà qu'à la base, je suis pas très rassuré par l'hégémonie des grands groupes que vous appelez les GAFA. Alors si en plus quelqu'un de très bien informé quand même, puisqu'il est à la tête d'Avas depuis très longtemps, si Monsieur Seguela lui-même est parano, alors moi je deviens, extra parano, quoi. Voilà, il n'y a aucune chance de s'en sortir.
Je te rassure tout de suite, moi je ne suis pas parano, mais pas une seconde, pour deux raisons. La première, c'est que je n'ai de complexe, ni de supériorité, je ne crois pas du tout pour un grand créatif, pour un grand publicitaire, je fais ce que je peux comme je peux, je bosse, voilà, j'avance, ni d'infériorité. Quand on me dit tu es nul, pourquoi tu parles de Rolex? Je parle de Rolex parce que c'est comme ça, me foutez-moi la paix.
Mais alors, il y a un truc qui est quand même formidable, c'est que j'ai même pas eu le temps de poser ma question. Non, mais ça, c'est Jacques. Hein.
Je finis de la pause. Mais surtout, ma grande force, c'est l'âge. Bon, la vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Je n'ai que des rêves, je ne cultive que mes rêves. Tu peux poser ta question.
Est-ce que le diable s'habille en Seguela?
Non, mais Seguela s'habille en Prada.
Le nouveau rôle des penseurs, des patrons, des politiques, des médias, des communicants, se devra d'être le régulateur de ce tempétueux torrent informatif, pour lui donner un sens autre que giratoire. Et notre rôle de consommateur convulsif sera de nous réguler nous-mêmes, sous peine de nous voir entravés.
C'est intéressant parce que la question, c'est l'autorégulation, donc une prise de conscience des gens du rôle qu'ils peuvent avoir pour que les choses soient un peu mieux maîtrisées. Mais comment faire? Parce que c'est pas simple.
La première chose, ce sont les États qui peuvent agir, puisque c'est État contre État, en fait. C'est même leur intérêt d'agir, sinon ils vont perdre le statut d'État, de grands États. Et moi, je demande que l'on fasse un sommet mondial sur la régulation des GAFA, comme on fait un sommet mondial sur la régulation de la planète. Parce que la planète, sûr que c'est grave. C'est grave dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans. Les GAFA, c'est grave aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui qu'il faut prendre les choses en main. Après, il y a nous-mêmes. Nous sommes les premiers concernés. C'est à nous, réglementer. Exemple, nous sommes tous moutons de panurge de Google. Mais pourquoi Google? Alors qu'il y a un moteur de recherche français qui s'appelle Quant, qui fait partie de mes copains, qui s'appelle Rosan, qui était venu me voir quand il l'a fait.
Que nous avons utilisé pour le site France.fr, que nous avons déployé pour le monde entier.
Bravo, bravo. C'est moi qui lui ai mis la puce à l'oreille, je lui ai dit, méfie-toi, il y aura un drame, parce qu'il y a longtemps que ça me poursuit cette histoire des GAFA. Il y aura un drame avec les données. Fais gaffe. Et il m'a écouté, et les données, il n'y a pas d'exploitation des données sur Quant. Et en plus, c'est un moteur formidable parce qu'il est ouvert au partage, etc. Il est 10 fois plus moderne que le moteur Google. Pourquoi l'ensemble des administrations françaises ne sont pas obligées d'utiliser Quant? Et moi, je suis très, très heureux parce que chez Havas, notre directeur financier et tous ses financiers utilisent Quant et n'utilisent pas Google. C'est un exemple parmi d'autres.
Oui, mais donc on est d'accord que c'est comme pour l'écologie. Responsabiliser le citoyen ou la personne lambda, en fait, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Ce qu'il faut, c'est des vraies décisions politiques à haut niveau.
Mais il faut les deux. Parce que pour que les politiques se décident, mais d'abord, il faut écrire des livres comme le mien. Je ne dis pas d'ailleurs qu'il est bon, c'est une goutte d'eau dans la mer. Mais si tout le monde s'y mettait, ça finirait par tirer la sonnette d'alarme.
Vous dites même à un moment donné qu'il faut descendre dans la rue.
Bien sûr, on descend bien dans la rue pour la planète. Pourquoi on descendrait pas la rue pour nous-mêmes? On est quand même aussi important que la planète. Merde!
Oui, mais ce qui est compliqué, c'est que finalement, les gens, ils sont assez contents avec les, par exemple, Google. En fait, la paresse l'emporte. La difficulté.
À quel prix de possession? On leur a donné nos âmes. Enfin, ils nous ont volé nos âmes. Et on la leur laisse.
On écoute un deuxième extrait du livre de notre invité, Jacques Seguela.
Il n'est pas encore mort.
Le dataïsme prône que l'accumulation de nos données finit par nous connaître mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes.
il y a une sorte de lutte entre data qui irait vers une surpersonnalisation des messages et donc finalement un amoindrissement de la création, et de l'autre côté quand même la créativité que ça peut nous donner, tout ça. Donc comment on fait pour ne pas diluer les marques dans ce grand bain de messages surpersonnalisés où on voit bien qu'il y a un intérêt mais en même temps où on risque de se perdre un peu, non?
La tech sans affect n'est que ruine de l'âme. La tech sans création n'est que ruine de la pub.
Tech sans affect. La tech sans affect.
Il est parti, on lui dit un mot, il est parti. Ça s'appelle une punchline. Et d'ailleurs, la publicité d'aujourd'hui est en train d'essayer de tester ses propres consommateurs, pas simplement sur le QI comme ils l'ont fait jusqu'à présent, mais aussi sur le QE des consommateurs. C'est fondamental si nous voulons venir à bout de l'enchelousse technologique que nous luttions par la créativité et j'en finis, au moment où les GAFA sont en train de ruiner la pub, j'espère que vous avez bien compris ça, hein, où on lutte avec la technologie, ils sont toujours meilleurs que nous. C'est-à-dire, si vous regardez les boîtes à silos de technologie comme WPP et Publicis, ce sont celles qui sont le plus en danger, où on lutte avec la créativité, non pas en silo, mais comme on le fait nous en village, comme le fait Omnicom et comme le fait Havas.
Sur la créativité, moi j'estime que les plus grands créatifs sont ces scientifiques qui imaginent ces choses de demain et qui sont dans la Silicon Valley.
Oui, mais il faut pas confondre création et innovation. C'est deux métiers différents, c'est des neurones différents, même à l'opposé. Parce que l'innovation, c'est la recherche, la création, c'est la rupture. Dans l'innovation, la rupture, c'est une panne. Dans la création, la rupture, c'est une idée. Donc, il faut pas du tout les comparer. Mais je suis évidemment pour la défense et l'illustration de toutes les start-up et de tout ce qu'ils peuvent inventer, etc. Je dis simplement qu'il faut les réguler. Il y a 6000 ans, on a inventé la roue. La roue a été inventée dans les contreforts.
Je connais pas la date exacte.
6000 ans, jour pour jour. Je vois la roue qui sort du mont Arara, là. Le jour où on a inventé la roue, on a inventé les accidents de la route, qui a été, d'ailleurs, parmi les causes les plus meurtrières des décennies passées. Et puis les gouvernements ont pris les choses en main. Ils ont inventé la prévention routière. Et puis chaque conducteur a mis sa ceinture, l'a ronchonné pendant 2 ans. Et puis aujourd'hui, on a baissé de 80% les morts sur les routes. Eh bien, puisqu'il y a une prévention routière, moi je demande une prévention numérique. Je veux pas supprimer la voiture, je veux pas supprimer le GAFA, je veux simplement supprimer les morts.
Dans notre étude aussi, on a quand même posé une question folle. On a demandé aux gens s'ils souhaiteraient devenir cyborg s'ils en avaient le choix, donc mélange être et machine, et notamment en pouvant en gros implanter leur smartphone dans leur corps. Et il y a quand même 32% des 18-34 ans qui sont d'accord avec ça. 32%, donc certes, c'est pas la majorité, mais c'est fou.
Bien sûr, et d'ailleurs, c'est en route. L'avenir de l'intelligence artificielle, c'est de nous greffer un ordinateur dans la tête. D'ailleurs, il y a un milliardaire, je crois que c'est un milliardaire russe, qui donne sa fortune à l'informaticien qui réussira à formater, alors lui, c'est l'égoïsme puissance 1000, à la greffaison d'intelligence sur un autre humain. Mais ça, c'est terrible. Parce que c'est la fin de l'altérité.
Oui, oui, mais en fait, ce qu'ils disent, c'est, ils disent, justement, plus l'intelligence artificielle va progresser partout, plus, en fait, pour résister, on aura besoin aussi de s'équiper pour finalement ajouter quelque chose de plus, parce que sinon, on sera de toute façon dépassé par la puissance de calcul.
Enfin, il vaut mieux quand même ne pas en arriver là. Parce que, moi, j'ai tout un chapitre sur les robots tueurs. Tout d'un coup, tu as froid dans le dos.
Oui, mais d'un côté, depuis l'invention de la bombe atomique, on a fait le truc le plus horrible qu'on puisse inventer, donc on sait qu'on est capable de ça.
Non, c'est pas le plus horrible, parce que Stephen Hawking dit, il y a eu 3 grandes étapes dans la technologie militaire. Il y a eu la poudre, il y a eu l'atome, et il y a pire que ça, le numérique. Il nous a quittés, Hawking, il y a quelques mois. Mais il n'a dit que des vérités premières.
Vous l'aurez compris à demi-mot, Le diable s'habille en GAFA est un livre capital qui, Félix, vous a curieusement fait penser au capital.
L'histoire passionnante et édifiante du capital.
C'est vrai que moi, en lisant le livre de Monsieur Seguela, j'ai pas pu m'empêcher de voir surgir dans mon esprit des passages d'un autre écrit donc qui m'a marqué dans ma formation intellectuelle. C'est donc le célèbre Capital de Karl Marx, publié en 1867, il y a donc 150 ans. Un tout petit peu plus que ça. Alors c'était pas l'ère de la révolution infostrielle dont parle notre invité, mais celle de la révolution industrielle. Et comme Jacques Séguéla, Marx était à la fois fasciné et terrifié par cette transformation radicale, y voyant une occasion d'émancipation de l'homme et la perte potentielle de l'homme. Comme le diable s'habille en GAFA, le capital trouve son point de départ dans l'apparition de quelque chose d'inhumain, la machine. Et hier autant qu'aujourd'hui, on la trouvait intelligente, c'est-à-dire capable de faire des tâches que nous ne faisions pas aussi bien. Marx voyait l'homme dépossédé de sa force de travail et notre invité constate que l'homme pourrait se voir dérober de son intelligence si précieuse. Les machines reléguant le travailleur à un simple accessoire servant à actionner quelque chose, Marx dénonce un homme devenu marchandise, objet. Notre invité dénonce lui un homme dont l'identité, les données, les datas deviennent marchandises. Donc dans les deux cas, il y a marchandisation de quelque chose d'humain. Et dans les deux cas, les révolutions industrielles et infostrielles risquent de choisir de mettre l'homme au service de la machine et non l'inverse. Et d'ailleurs, vous, Jacques Séguéla, vous le clamez dans votre ouvrage « Je me ferai le chantre d'une technologie au service de l'homme et non de l'homme au service de la technologie ». Votre obsession est de voir cette formidable puissance technologique, ces milliards de data, ces robots au service de la cause du bonheur terrien finalement. Et c'était aussi l'obsession de Marx, qui rêvait de voir tourner à plein régime ces immenses machines industrielles pour libérer l'homme d'une vie de labeur et lui fournir les outils du progrès matériel. Mais Karl et Jacques ont une différence que ce dernier souligne lui-même à la fin de son ouvrage, puisque vous dites à la fin, vous exhortez les citoyens, maîtres de leur destin, à inventer un ordre politique juste et bon, à secouer le cocotier du capitalisme. Et vous précisez en même temps que Marx n'aurait pas cru une seconde à ce genre de vaine spéculation de l'imagination. Donc vous dites vous-même, Marx m'aurait pris pour un rêveur, un idéaliste. Et effectivement. Marx aurait dit à Jacques que son appel à humaniser la société face à la machine est un pur délire. Parce que ce qui est né à l'ère de la révolution industrielle et qui continue de régir nos vies à l'ère infostrielle, c'est un système tiré du nom du livre de Marx il y a 150 ans, le capitalisme. La domination de l'homme par l'homme, une société au service du profit de quelques-uns aux dépens de l'immense masse, c'est l'enfer sur Terre où toutes les avancées technologiques servent finalement le mal. Et vouloir combattre le diable en enfer, c'est un combat qui semble un peu perdu d'avance, non ?
Non, ce n'est pas que le profit. Il faut pas croire que les gens n'ont que le profit à la tête. Je pense que justement cette génération-là, elle veut réussir, elle veut inventer, elle veut créer, mais elle veut le faire pour un monde meilleur. Et c'est même la première génération qui prononce les mots d'un monde meilleur avant de le faire pour un portefeuille meilleur. Mais l'un ne discute pas l'autre, évidemment. Et c'est pour ça que ce livre est quand même dédié à la jeunesse. Il n'y a que la jeunesse qui peut faire avancer le monde. Tous les autres, on est des vieux cons.
Dans ce monde-là, justement, est-ce que les marques ont un rôle à jouer ?
Mais elles ont un rôle déterminant. C'est dans la main des États, c'est dans la main des annonceurs, c'est dans la main des agences, c'est dans la main des médias. Et que si tout le monde se regroupe, oui, on arrivera. Il faut être optimiste.
Voulez-vous en savoir plus ?
C'était AI, une émission du Poste Général en partenariat avec BETC Digital.